Europe 1.
Aujourd'hui, un salarié sur trois déclare avoir été victime de harcèlement au travail. Les plus touchés par cette situation sont en majorité les jeunes employés, mais aussi les femmes. Remarques sexistes, harcèlement moral ou sexuel, leur emploi a transformé leur vie en un véritable enfer. Face à ces violences, certaines employées ont trouvé le courage de parler et parfois même de déposer plainte au risque de perdre leur travail. Comment dénoncer un harceleur parfois très haut placé ? Comment affronter sa hiérarchie et comment se relever après ces violences ? Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire d'Hélène. Encore étudiante, son premier emploi dans une entreprise est devenu un cauchemar insoutenable en raison des attouchements sexuels de son patron. Je suis Olivier Delacroix, vous écoutez le podcast Dans les yeux d'Olivier, soyez les bienvenus. Hélène, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Ça va, et vous ?
Très bien. La jeunesse et la naïveté d'Hélène ont fait d'elle une proie facile pour cet homme qui s'est révélé être un prédateur sexuel.
C'est-à-dire qu'en fait, à la base, quand j'ai rencontré cet homme, il me paraissait vraiment charmant. Très poli, très courtois et en même temps, sans être guindé, il y avait quelque chose d'assez naturel qui s'est créé quand on s'est rencontrés. C'est vraiment une fois que j'ai commencé à travailler chez lui, avec lui, que j'ai commencé à comprendre quel genre d'homme il était et que derrière ce côté avenant, poli, etc., il y avait quelque chose de beaucoup plus sinistre et beaucoup plus pervers. Mmh. J'ai mis vraiment beaucoup de temps à me rendre compte, à mettre un mot sur son comportement, à pouvoir me dire ce qu'il fait, c'est ce que je subis, c'est du harcèlement. Mmh. Pour moi, le mot harcèlement, c'est quelque chose de fort, de grave, et au final, c'est ce que je vivais, mais j'en avais vraiment pas conscience. Mmh.
L'entretien avec son futur patron dure plus de 5 heures. Hélène répond à des tests de langue, de QI, mais aussi à de prétendus examens psychologiques qui comportent des questions très personnelles. La jeune étudiante est surprise, mais ne s'offusque pas. Elle n'a que 20 ans et c'est son tout premier entretien professionnel.
Très bien.
Elle se dit que ce genre de test doit être monnaie courante. Quelques jours plus tard, l'homme la convoque pour lui annoncer qu'elle est engagée.
Le problème, c'est la manière dont il me l'a annoncé. Donc, c'est-à-dire qu'on était à l'entreprise, il m'appelle dans son bureau et il me dit de venir voir un mail sur son PC. Donc moi, je viens et je regarde son mail, je me penche. Et effectivement, le mail disait, c'était un mail écrit à mon responsable de formation qui disait qu'il m'embauchait. Et du coup, je lis ça et en fait, lui, il est arrivé derrière moi et il m'a vraiment... Il m'a pris dans ses bras, derrière, il m'a serré et il a commencé à faire balader ses mains tout autour de tout le long de mon corps en fait. Mais il me dit oh, je suis content pour toi. On va pouvoir travailler ensemble. Et puis il me serre dans ses bras et machin. Et réaction. Qu'est-ce qui vient de se passer ?
Qu'est-ce qui vient de se passer, ouais.
Je le vis pas sur le coup comme une agression.
Ouais.
Je comprends pas trop, mais d'accord, je réagis pas, je m'énerve pas, je l'occulte très vite.
Ouais.
Et je me concentre sur le positif qui est que, c'est bon, il a enfin pris sa décision, je suis prise, je vais pouvoir continuer ma formation.
Comment se déroulent les semaines suivantes ?
Les semaines suivantes, en fait, il y a une certaine routine en fait qui commence à s'installer, une routine de travail qui pour le moment est bonne, sauf un soir du coup quelques semaines après, il a fallu qu'on termine tard et il propose de me ramener chez moi. Et en fait à un moment donné pendant ce trajet, je sais pas pourquoi, il a mis sa main sur ma cuisse. Dans ma tête, il y a 10 secondes de mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ? Et après c'est la tétanie. Le geste, il est long, il est appuyé, j'ai l'impression que ça dure des heures.
Ouais.
Et je suis complètement paumée. J'aurais qu'une envie, c'est de m'enfuir, mais je suis dans une voiture. Mmh. Et j'ai pas la force de dire quoi que ce soit. La seule chose que je fais, c'est je détourne le regard et je, je, Encore une fois, je regarde même pas ce qui se passe. Je regarde même pas cette scène. Je veux juste pas regarder parce que je suis dans une parfaite incompréhension.
Il continue de vous parler ?
Il continue de me parler.
Ouais.
Comme si de rien n'était. Ouais. Et à un moment, je me mets à tousser. Mm-hmm. Et à ce moment-là, il enlève sa main de ma cuisse, il me la met près de la gorge et il la descend sur ma poitrine. Et il laisse sa main sur ma poitrine. Pareil, ça a duré un temps interminable. C'était juste horrible, en fait. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qui se passe ? Je fais un blocage au niveau de mon corps. Et c'est ce que j'ai fait par la suite quand, malheureusement, ça s'est répété.
Ouais.
Tu sais que le geste va arriver. Tu mets ton corps sur off.
On met
son esprit sur off aussi. Il se passe rien pour pas le voir, pour pas le ressentir. C'est non, il se passe rien. Je ressens rien. Et au final, au bout de quelques minutes, il finit par enlever sa main et faire comme si de rien n'était.
Vous vous dites quoi ? Vous vous dites c'est grave, c'est pas grave.
Je me dis ça s'est passé, mais c'est pas grave.
D'accord.
Je me dis c'est pas grave. Je vais gérer. Je vais le gérer. Mm-hmm. D'une manière ou d'une autre, je vais le gérer. J'étais un peu trop fière à l'époque aussi. Je dois l'avouer que. Je voulais pas admettre que je pouvais être...
Sous sa coupe.
Ouais. Mm-hmm. Ouais. Et sous la coupe de personne, en fait. Mm-hmm. C'est aussi pour ça que j'en ai pas parlé à mes parents en rentrant. Je voulais pas admettre que je pouvais avoir un problème. En fait, j'étais très naïve. Mm-hmm. Je me demande si, justement, effectivement, à ce moment-là, est-ce que c'est moi qui le provoque ?
Ouais.
Donc, je me remets quand même en question, me dire, est-ce que c'est moi ? Et je vais continuer à m'écraser. J'ai commencé à porter des vêtements amples.
Ouais. Cachez vos formes.
Je cache mes formes. Je me maquille pas, je m'attache les cheveux. Je portais des cols roulés, plus de jupe. Je me disais, si maintenant je me cache, peut-être qu'il me verra plus, peut-être qu'il me touchera plus. Mais malgré tout, il continuait. Il continuait ses gestes, il continuait des fois, c'était simplement des regards, des... Il disait, tiens, on est vendredi, il faut que tu ailles faire le ménage maintenant.
Il faut que tu ailles faire le ménage.
Oui, il me faisait faire le ménage. On nettoyait les bureaux, on passe un coup d'aspirateur, un coup de balai, etc. Ben oui, forcément, ben, on se penche, on est parfois accroupi. Et puis lui, il était là et puis il regardait.
Jour après jour, l'homme continue son manège. Il profite de son ascendant sur la jeune employée, la caresse ou la prend dans ses bras à la moindre occasion. Un jour, Hélène découvre même que pendant son entretien d'embauche, l'homme ne s'est pas contenté de lui poser des questions un peu déplacées.
À un moment donné, mon patron me demande de chercher un document sur son PC. Et à ce moment-là, je regarde et je tombe sur des photos avec mes initiales. Et par curiosité... Je les ouvre et là je me rends compte qu'en fait c'est des photos du jour de mon entretien, des photos de moi centrées sur mon décolleté, sur ma poitrine.
Et vous vous souvenez l'avoir vu devant vous tripoter son portable comme
son
si.
Son portable, ouais. Mais j'ai pas pensé qu'il pouvait prendre des photos en fait.
Bah, comment peut-on penser ce genre de choses ? On peut pas.
Et puis je pense que j'avais l'esprit un peu ailleurs à ce moment-là aussi. Ouais. Je faisais pas attention quoi.
Mm-hmm.
Et à ce moment-là, du coup, je vais un peu plus loin. Je regarde dans ses photos sur son PC. Et là, je tombe sur des photos de jeunes filles, des anciennes employées.
Quelle est votre réaction quand vous tombez sur ces photos ?
Je suis choquée, mais surtout en colère. Ce qui était frustrant, c'est que j'avais envie de les supprimer.
Mm-hmm.
Mais si je les supprimais, ça aurait pu vraiment l'énerver et j'en aurais bavé, je pense.
Un week-end, le patron d'Hélène emmène la jeune fille et l'un de ses collègues en Allemagne pour un salon professionnel. Le premier soir, après le dîner, il raccompagne la jeune fille à sa chambre d'hôtel.
Arrivé devant ma chambre, il me dit « Ah, tiens Hélène, il faudrait que je regarde tes tenues pour demain. Je veux être sûre que tu portes de bonnes tenues. » Alors du coup, je me dis « Ben non, enfin... » Je serais bien habillée, enfin, vous inquiétez pas pour ça, quoi. Et en fait, le temps que je me retourne, que je lui dise ça, il était déjà rentré dans ma chambre. Et il avait fermé la porte. Du coup, il voit tout de suite à l'entrée, à l'entrée de la chambre, il y a un grand placard avec toutes mes affaires dedans. Alors, il s'amuse à regarder. Ah, bah tiens, ça c'est joli, ça va. Non, ça va pas. Et alors, je le vois, il a le sourire jusqu'aux oreilles, il est tout content. Et moi, je suis juste là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous faites là, quoi? Alors, il me regarde et il me fait, oh, tu sais quoi? Enlève tout et fais-moi un défilé. Et là, je revois cette chambre, je le revois lui, et dans le fond, je voyais le lit. Et je me dis, s'il a une idée qui... Si là, maintenant, il déraille, moi, je peux rien faire contre lui. Je peux rien faire. Mon collègue était parti. Je suis dans un pays que je connais pas. Enfin, étranger. Je parle pas la langue. J'ai même pas de réseau. Enfin, je voyais vraiment, là, le traquenard, mais horrible, quoi. Et je sais pas pourquoi. Peut-être parce que là, à ce moment-là, j'ai vraiment senti le danger. Mais je lui ai gueulé dessus. Je lui ai dit de sortir de ma chambre. Et c'est ce qu'il a fait. Il a dit, ah, bah, d'accord, bah, bonne nuit. Et il est sorti. Et à ce moment-là, à la fin de ces 3 jours, on revient sur Strasbourg. Je commence à comprendre que ça a atteint un degré vraiment important et que ça me bouffe. Parce que je vois qu'il va de plus en plus loin, qu'il fait et dit des choses de plus en plus graves. Et je vois que... Au lieu de m'endurcir, je m'affaiblis de plus en plus.
Ouais.
Et je le vois à ce moment-là vraiment comme un danger.
Hélène ne raconte à personne cet épisode. Pas plus qu'elle ne parle à ses proches de ses journées de travail, pendant lesquelles elle fait tout pour éviter d'être en contact avec son patron.
L'une des raisons pour lesquelles je n'ai pas parlé, c'était parce que j'avais honte. Et... Que j'avais peur qu'on me croie pas. Et je crois que j'aurais pas supporté qu'on remette en question ma parole, qu'on remette en question ce qui s'est passé. Mes parents m'ont toujours dit, voilà, faut pas faire de vagues, faut rentrer dans le moule, faut pas d'histoire. Fais tes études, sois sérieuse, fais pas parler de toi. En parler, c'était à mes parents, ça aurait été admettre ce qui s'est passé. Admettre ce qui s'est passé, ça impliquait que je pouvais pas rester dans cette situation, ouais. Qu'il fallait que je change d'entreprise, que ça mettait en danger ma licence. Et moi, je revenais toujours à la même chose, pas de boulot, pas de licence. Et pour moi, rater une année scolaire, c'était inenvisageable.
Ouais. Quelle solution s'offrait à vous
Aucune. J'avais 20 ans et j'avais peut-être la mentalité d'une ado de 17 ans. J'étais pas armée pour faire face à ça.
Comment est-ce que vous gérez cette période-là, ces 6 derniers mois?
Bizarrement, je subis moins d'un point de vue harcèlement et attouchement, mais mentalement, c'est plus dur. Vu qu'à chaque fois que je dis non, à chaque fois que je résiste, à chaque fois que j'esquive, je suis punie. Le harcèlement sexuel s'est transformé au final en harcèlement moral à ce moment-là.
D'accord.
D'une manière ou d'une autre, il arrivait à m'atteindre. J'aurais préféré qu'il me tabasse, mais vraiment, j'aurais préféré qu'il me cogne plutôt qu'il me dise tout ce qu'il m'a dit en un an. Parce qu'une blessure du corps, on en guérit. Une blessure psychique, une blessure mentale, pour moi, c'était plus difficile de s'en remettre.
En juin 2012, l'heure est venue pour Hélène de passer sa soutenance à la fac. Pour elle, cette date signifie aussi la fin de son calvaire. Mais une très mauvaise surprise l'attend. Elle découvre que son contrat en alternance s'est transformé à son insu en CDI. La jeune fille se sent piégée et n'ose pas se rebeller, inquiète qu'un conflit ouvert avec son patron puisse compromettre son diplôme de fin d'études.
En fait, il ne voulait pas me laisser partir.
Quand il ne voulait pas vous laisser partir.
Quand je lui ai expliqué que je voulais que ça s'arrête, il n'y avait rien à faire. Il a refusé une rupture de contrat à l'amiable. Mm-hmm. Une démission, c'était hors de question aussi pour lui. Donc, il aurait fallu que je fasse un abandon de poste.
D'accord.
Et il m'a fait comprendre que si je faisais un abandon de poste, il allait engager des poursuites contre moi parce qu'il pouvait.
Vous y voyez quoi là-dedans? Vous y voyez sa volonté de garder son joujou là?
Oui.
De...
oui, je pense que l'idée c'était vraiment de me démolir psychologiquement pour pouvoir après m'utiliser comme une marionnette. Et c'est là où malheureusement les idées un peu morbides commencent à arriver quoi. Parce qu'on se dit, je voyais vraiment pas de solution. J'étais perdue.
Vous allez quand même descendre donc assez fort parce que à un moment votre petite amie de l'époque semble ne plus savoir comment faire parce que finalement vous avez ça vous a touché dans votre intimité à tous les deux.
Oui. Ouais, à un moment donné, c'était plus possible. Je supportais pas qu'on me regarde de manière insistante. Je supportais pas qu'on me touche. Ça commençait à me rappeler des mauvais souvenirs, en fait. Toute la plupart du temps, je dormais dans le salon parce que y avait ce côté « tu ne me touches pas ». Même s'il se retournait, qu'il me frôlait, c'était répugnant, quoi. Mmh. Et c'est pour ça que ça a fini par se finir entre nous parce qu'il n'arrivait pas à comprendre.
Désormais seule avec ses angoisses, la jeune femme se décide enfin à demander de l'aide. Sans entrer dans les détails, elle en dit juste assez à son père pour que celui-ci intervienne et menace le harceleur de tout révéler à la justice. Inquiet, l'homme n'insiste pas et accepte enfin la démission d'Hélène sans préavis.
Allez-y, je vous en prie.
Merci.
Mais ce qui aurait dû être une libération pour elle s'accompagne soudain d'un contre-coup très violent.
Ça a été la fin d'un calvaire, c'est sûr, mais ça a été le début d'une prise de conscience aussi. Même si j'avais plus cette angoisse de devoir subir cet homme, je revivais quand même constamment ce qui s'était passé. À ce moment-là, je deviens complètement parano en fait. Et je développe des tics nerveux, des phobies de différentes sortes. Je suis tellement nerveuse, tellement stressée que j'arrive pas à manger. Dormir, j'arrive pas à dormir parce que je me refais systématiquement les scènes, ouais. Tout ce qui s'est passé. Et je rentre en fait avec ça dans un cercle vicieux qui a pas de fin. J'ai eu peur des vieux hommes pendant longtemps. Parce qu'il me rappelait d'une manière ou d'une autre, il me rappelait mon ancien patron.
C'était un rejet.
Un rejet. Mais j'ai fait un rejet de tout le monde, du coup. Et même des hommes de ma famille, je veux dire, même mon père, qui a toujours été adorable et plus que correct. Enfin, c'est mon père, quoi. Mm-hmm. Mais même lui, qui venait me faire un énorme câlin, j'étais, oh mon Dieu, non.
Profondément perturbée, Hélène mettra longtemps avant de retrouver un peu de confiance en elle. Ce qui l'aide à avancer à l'époque, ce sont ses amis d'enfance avec qui elle a malgré tout gardé le contact.
Et tu bosses lundi direct?
Oui.
Ah, donc t'auras pas eu le week-end, quoi?
Ouais.
Nice.
C'est en se confiant notamment à Nicolas et à ses autres amis hommes qu'elle a pu commencer à exorciser son histoire, à en saisir la gravité. C'est aussi leur regard sur son histoire qui l'a encouragée au moment de porter plainte.
Le fait est qu'ils ont remarqué aussi que quelque chose n'allait pas au bout d'un moment d'eux-mêmes, parce que voilà, il y a eu ces moments d'insouciance, on y va, on fait la fête, mais arrivé tard dans la nuit, on a bu quelques verres et là, à ce moment-là, on cogite. Je recommence à cogiter et puis je fonds en larmes, je fais des crises de larmes.
Vous l'avez remarqué, ça, Nicolas ?
Justement, nous, on était à côté et on voulait surtout plus la soutenir qu'autre chose. Mais quand on ne connaît pas le vrai problème, on peut pas aider une personne. Du coup, c'était très compliqué pour nous de réussir à comprendre exactement ce qui s'est passé. Et au final, c'est vraiment au niveau de la plainte que là, on a vraiment réalisé que c'était vraiment une histoire horrible et qu'elle a vraiment supporté quelque chose d'affreux.
Ouais.
Ça nous a tous rendus fous et... C'est, je pense que c'est à partir de ce moment-là où elle a vraiment expliqué comme quoi que c'était vraiment pas normal, vraiment qu'il fallait faire quelque chose, et que justement ça a découlé sur cette plainte et justement ce procès, etc. Là on s'est vraiment dit, il y a une justice, entre guillemets.
Ça se concrétise, cette plainte, donc dans un premier temps vous êtes contacté par une première victime. Hein.
Oui. À ce moment-là, je reçois un appel de Marie. Qui me
qui m'explique qu'elle travaille dans cette entreprise, qu'elle vit la même chose que moi.
Les mêmes conditions de harcèlement.
Je dirais même des choses peut-être plus graves. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit il y a une escalade dans la violence des faits, dans la gravité des faits, qui est vraiment très très inquiétante. Et effectivement, on se dit il ira jusqu'où ? Moi, j'étais persuadée qu'il pouvait aller jusqu'au viol, quoi. Et c'est seulement quand je l'ai vu dans quel état psychologique elle était, que j'ai compris que si je le faisais pas pour moi, je devais le faire pour les autres. Parce que je me doutais qu'il y avait potentiellement d'autres victimes. Ok, moi, je suis partie, je suis sortie de tout ça. Mais les autres derrière. Si moi, je fais rien, il n'y a rien qui l'arrêtera.
Hélène ne se trompe pas. Car très vite, une troisième victime fait son apparition et porte plainte contre son ex-patron pour harcèlement sexuel. Le procès a lieu en novembre 2014, après une instruction qui n'aura duré que 6 mois.
Ça a été une chance que ça soit jugé aussi rapidement que ça.
Oui, ouais, ouais. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs ça a été aussi rapide, mais c'était tant mieux.
Ouais.
Pour cette jeune femme qui s'est tue si longtemps, la procédure judiciaire a été une épreuve. Avec les détails de l'instruction, tout ce que par honte elle avait caché à ses proches est exposé en public du jour au lendemain.
Ce procès m'a bouffé même physiquement, quoi. Déjà plusieurs jours avant, j'ai commencé à avoir des plaques d'eczéma sur tout le corps. J'ai jamais été aussi stressée de ma vie. Son visage en fait m'avait tellement hantée que de revoir sa figure, c'était quelque chose qui m'angoissait, quoi.
Comment ça s'est passé ce procès en fait? Vous avez été appelé à reparler ou c'était vos avocats qui parlaient pour vous?
Non, c'était les avocats. Ouais. Les juges ont déroulé un petit peu l'histoire de chacune.
Ouais.
Et du coup, les juges lui demandaient de se justifier, quoi. Mmh. Et ses justifications étaient aberrantes, quoi.
C'est-à-dire?
Il n'a pas du tout pris ça au sérieux et il a essayé de minimiser les faits. Il a même justifié certains de ses gestes en disant que c'était des gestes pour nous rassurer, parce qu'on était deux pauvres filles tellement nerveuses, tellement stressées. Et du coup, ces gestes étaient censés nous calmer les nerfs, quoi. Uh-huh. Il a montré à tout le monde sa mauvaise foi et qui il était vraiment, en fait. Ouais.
Donc il est condamné à 18 mois de prison avec sursis, inscription au fichier des délinquants sexuels. Plus obligation de soins et plus il doit vous verser à chacune des dommages et intérêts.
Oui. Sur le coup, j'ai eu un sentiment de pouvoir. Je me suis dit maintenant, avant c'est moi qui étais plus bactère et maintenant c'est toi. Je me disais qu'il y avait un juste retour des choses finalement. Ouais. Et je me suis rendu compte à ce moment-là aussi qu'il me faisait plus peur. Je me disais, maintenant, t'es plus rien. Dans ma tête, je me disais, maintenant que ce procès est passé, que justice a été rendue, je me disais que maintenant, j'allais pouvoir enfin respirer et redevenir peut-être aussi qui j'étais. Et voilà, je referme la parenthèse triste et maintenant, je vais de l'avant, quoi.
Oser porter plainte a permis à Hélène de ressortir plus forte de cette histoire. Aujourd'hui gestionnaire dans un grand groupe spécialisé dans les hautes technologies, elle est entourée de collègues majoritairement masculins, mais elle se sent bien plus armée qu'elle ne l'était face à son premier patron.
C'est très courageux d'avoir pris la décision de témoigner dans ce film, parce que vous savez que voilà, beaucoup, beaucoup de téléspectateurs vous verront ce soir, et que demain, les gens qui n'étaient pas obligatoirement au courant de votre histoire le seront. Pourquoi vous avez décidé de faire ce film ?
Le but, c'est que les victimes, en fait, que ces femmes qui vivent ça au quotidien, qui ont vécu ça à un moment donné dans leur vie, aient justement le courage de témoigner, d'en parler, de porter plainte. Parler, ça nous aide à déculpabiliser. Et au bout d'un moment, on comprend que non, on n'est pas responsable de ce qui nous est arrivé. Moi, quand ça m'est arrivé, j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de solution. Et au final, c'est passé. Et ça va. Aujourd'hui, je vais très, très bien. D'une manière ou d'une autre, la douleur, elle finit par passer. C'est une question de beaucoup de volonté aussi. Si on décide qu'on va s'en sortir, alors on s'en sort.
Le podcast Dans les yeux d'Olivier est une création Europe 1 Studio. Production, Lisa Soster. Réalisation, Christophe Davio. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez cliquer pour vous abonner et être averti dès qu'il y a un nouvel épisode. C'est gratuit. Alors je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très très bientôt.